La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire avec encore trois invités pour débattre des sujets à la une de l'actualité nationale. Je salue Lucas Duval, membre du Parti radical de gauche et de la LICRA. Je salue aussi Pierre Fournier, membre du Parti Renaissance et référent Haute-Garonne des Jeunes avec Macron. Et je salue enfin Bruno Cyr, professeur agrégé en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole, animateur et producteur de l'émission À bâton rompu sur Radio Présence. Bienvenue à vous trois, merci de votre confiance. Et à propos de confiance, en voudrait-on à nos sous ou plus précisément à notre épargne? Comme vous le savez, Emmanuel Macron et son gouvernement ont entériné la nécessité de réarmer la France face au péril que représenterait la Russie, alors que les États-Unis de Donald Trump ont annoncé leur désengagement dans le conflit en Ukraine. Se pose maintenant la question du financement de ce réarmement pour notre pays déjà très endetté, et parmi les pistes évoquées, on parle beaucoup de mobiliser l'épargne des Français sous une forme ou sous des formes qui restent à définir. Lancement d'un emprunt national, création d'un fonds abondé par l'assurance vie ou création d'un placement patriotique. Éventuellement, on pourrait aussi piocher dans le livret A. Pour votre part, d'abord, est-ce que vous adhérez à cette idée d'avoir recours à l'épargne des Français pour financer la défense nationale et le réarmement du pays? Et si oui, quelle serait, selon vous, la bonne manière de procéder, la forme la plus adaptée pour y parvenir? Lucas Duval, quelle est votre réponse à ces questions? Et à la première pour commencer.
Donc bonsoir, merci Eric de l'invitation, comme toujours c'est un plaisir. Moi, je commencerai déjà par dire, en introduction, comme quoi je suis absolument évidemment pour réarmer la France, parce que, comme on dit, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Donc autant effectivement faire en sorte que si jamais on devait être attaqué par la Russie ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, eh bien qu'on soit prêt à pouvoir réagir pour ne pas se faire écraser. Maintenant, sur la question de comment est-ce qu'on finance ce réarmement, moi, je pense que il faut aller prendre l'argent là où il y en a. Je vais dire, pas vraiment dans l'épargne des Français, d'abord. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un sujet récurrent quand on débat ici sur plusieurs sujets économiques. Je pense qu'il faut mettre à contribution les personnes qui ont le plus d'argent, parce que l'épargne des Français, en réalité... C'est pas des actionnaires du CAC 40 qui ont des millions et des millions d'épargne. Dans les 6000 ou 6400...
Il y a 6400 milliards d'euros qui seraient l'encours de l'épargne des Français. Bon. Ce serait aujourd'hui 6400 milliards d'euros hors immobilier.
Bon, mais je doute que eh bien, ce soit la personne au SMIC qui soit dans ces 6400 milliards d'euros. Donc autant aller piocher dans la poche de ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Parce que c'est un sujet récurrent, encore une fois. On ne va pas faire trinquer, on va dire, les petits gens, ceux qui galèrent toute l'année pour financer, dans ce cas-là, c'est le réarmement, mais pour financer, peu importe en fait ce qu'on veut financer en France en réalité. Puis, il faut aussi dire, parce que c'est quand même participer à un effort patriotique, que les grandes fortunes de ce pays, si elles sont patriotes, devraient quand même participer à cet effort-là. Parce que il y a... Enfin, je veux dire très simplement, s'il y a la guerre, je ne suis pas sûr que leur économie tienne... Enfin, que leur entreprise, que tout ce qu'ils font, tout ce qui fait qu'ils ont beaucoup d'argent, soit vraiment encore prospère pendant une période de guerre. Donc, autant peut-être participer à cet effort de réarmement, on va dire, en investissement presque contre la guerre, donc pour leur business, plutôt que de faire payer ceux qui déjà n'ont pas beaucoup.
Donc vous, la question que posait la première, la réponse est non, donc la seconde devient caduque, on y reviendra peut-être.
En fait, c'est même pas non, c'est si il y a une...
Faire payer les riches.
C'est s'il n'y a pas assez, évidemment. En fait, c'est faire participer chacun comme il peut participer.
Chacun, les riches.
Les riches, après, proportionnellement,
on y reviendra,
mais proportionnellement.
Il y a la possibilité, même pour les moins riches, qui ont envie de contribuer.
Ah oui, s'ils veulent, bien sûr.
S'il y a un placement dit patriotique
bien
qui
sûr.
Est créé.
Moi, je parlais vraiment d'un ponctionnement.
Oui, alors ça, c'était carrément pioché directement dans l'épargne. Il est vrai que certains ont peur aujourd'hui de ça. Pierre Fournier, vous, d'abord, est-ce que vous adhérez à cette idée d'avoir recours à l'épargne des Français pour réarmer le pays? Et puis, si c'est le cas, comment faut-il procéder?
Alors, je pense que ce n'est pas la bonne question. En fait, l'épargne des Français,
j'ai pas posé
ça sera...
La bonne question.
Mais en fait, c'est parce que voilà, dans les médias, ils parlent forcément de piocher dans l'épargne des Français, mais ils font peur de prendre l'impression qu'on va voler l'argent des Français.
Non, j'ai pas dit piocher, moi, j'ai dit avoir recours.
Oui, mais c'est dans
sous
le narratif
une forme
qu'on a...
qui reste à définir.
C'est un peu le narratif qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment dans un second temps, cette histoire d'épargne. En fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est entré à l'Élysée, le budget de la défense a plus que doublé. On a un des budgets les plus conséquents depuis des décennies. Et on...
Oui, c'est dommage qu'il avait baissé à l'époque où Pierre de Villiers lui avait demandé de le maintenir.
Oui, tout à fait. Un certain Hervé Morin avait d'ailleurs baissé le budget de la défense.
Oui,
on l'entend partout aujourd'hui.
On peut pas la refaire.
Voilà. Et déjà, dans un premier temps, on a doublé le budget de la défense. On n'est pas à poil. Enfin, je veux dire, écoutez les gens, en fait, il faut financer la défense, on n'a plus rien, etc. Non, on a une armée solide, on a des nouvelles commandes, et surtout, en fait...
Mais il faut du temps, quand même, après, pour réarmer. C'est une chose de remettre de l'argent, mais après, pour reconstruire une vraie armée bien équipée, c'est des années et des années. Hein.
Tout à fait, mais c'est pour ça que ça fait depuis 2017
qu'on a... Mais cela dit, il faut enclencher le mouvement, c'est vrai.
Doubler le budget de la défense. Et ensuite, avant l'épargne des Français, il y a plein d'autres choses. Il y a déjà le financement commun... dans l'Union européenne. Mmh. Vous avez dû entendre Emmanuel Macron la dernière fois. Il a parlé de supprimer, pas supprimer, on va dire, mais que les investissements dans la défense ne soient plus inclus dans les déficits des États membres de l'Union européenne. Donc ça, c'est une chose importante, parce que, si vous le savez, le déficit doit être limité à 3% normalement au sein de l'Union européenne. Les États membres ne doivent pas dépasser ces 3%. Voilà, c'est une des règles pour rester dans l'Union européenne. Et ensuite, il y a plusieurs sources où on peut trouver. Il y a les avoirs russes. On s'est prononcé, Renaissance s'est prononcé juste aujourd'hui, et ça a été voté une résolution pour piocher dans les avoirs russes pour financer justement cet effort de guerre. Et enfin, c'est en faisant des commandes qu'on a réussi à débloquer le financement bancaire. C'est comme ça, si vous voulez, qu'on réussira à débloquer un peu ce trou qui nous manque. Mais si vous voulez... nous ne sommes pas à poil. Enfin, vraiment, je tiens à préciser là-dessus. On n'a pas de problème de financement de l'armée. Et enfin...
Alors pourquoi François Bayrou parle de lancer un emprunt national lui-même? Il dit que c'est une possibilité.
C'est pas une bonne idée. Enfin, moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Là, en fait, il y a d'autres sources de financement avant de parler d'emprunt national. Comme je vous ai dit, il y a les financements communs de l'Union européenne. Et ça, c'est nécessaire. Vous avez dû entendre que l'Allemagne et plusieurs pays européens veulent se tourner davantage désormais du côté européen plutôt que rester sur de l'atlantisme, comme ils l'ont fait pendant des années et des années. Hein, les Allemands, le futur nouveau chancelier allemand, je crois qu'on doit dire comme ça, parce qu'il n'est pas encore...
Oui, il n'est pas encore nommé, effectivement.
Voilà. Le futur chancelier allemand a dit clairement qu'il fallait voir avec les Français, notamment pour le parapluie nucléaire. Aujourd'hui, les Allemands sont un peu protégés par les États-Unis avec leur parapluie nucléaire. Aujourd'hui, avec Trump, on ne sait pas ce qui va se passer. Ils veulent se tourner vers la France, qui nous avons le parapluie nucléaire, l'arme nucléaire pour nous défendre.
Ouais. Alors, tant que les États-Unis sont dans l'OTAN, a priori, on l'a encore, le parapluie nucléaire américain. C'est seulement s'ils en sortent.
Nous, on a le propre. Nous, si on a le nôtre. On n'a pas besoin des
Américains.
Oui, alors
nous, oui, mais je parle des Allemands, en fait, des Européens en général. Alors, Bruno Cyr, vous, est-ce que, comme Pierre Fournier ou Lucas Duval, vous pensez que la réponse à la question, c'est non? Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, oui, il va falloir avoir recours à l'épargne des Français pour financer cet effort de réarmement de l'armée? On ne parle pas encore d'effort de guerre, tout de même.
C'est plus ou moins ce qu'a dit Macron, mais l'Europe est en guerre quand même. Ça, il faut bien cadrer les choses. L'Europe est en guerre et le problème, il est européen. La France étant un des pays dans l'Europe qui, pour l'instant, a avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre fait partie de l'Europe, même si elle n'est pas dans la communauté, il y a deux pays qui ont l'arme nucléaire. Mais notre armée, et c'est un peu le cas de l'Angleterre ou de l'Allemagne, notre armée, face à une invasion telle que l'a connue l'Ukraine, sans l'aide américaine, elle tient 3 jours.
Oui, bien sûr.
Donc c'est vrai qu'on a une armée qui est très pointue, très efficace. On a des armements de haute technologie, mais c'est une armée d'opérette, c'est une mini-armée. C'est pas, on n'a pas, au point de vue homme, au point de vue matériel, de quoi résister à une invasion. Donc, il est évident qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Et on y reviendra peut-être dans la seconde partie du débat, pourquoi il ne faut pas rester dans cette situation en attendant que les Américains nous aident, parce que l'OTAN est en train d'exploser et parce que il y a, sur le plan géopolitique, soit l'Europe disparaît, hein, c'est clair, c'est-à-dire que qu'est-ce que veut Poutine ? Poutine, il veut recréer l'Empire russe, c'est-à-dire le moment où à Yalta, on avait partagé l'Europe en deux, et c'est ça son rêve. Donc on ne peut pas laisser Poutine partager l'Europe en deux, et sinon l'Europe disparaîtra. Donc ça, il n'y a pas une menace directement pour la France, mais il y a une vraie menace de guerre pour l'Europe qui est déjà en guerre avec l'Ukraine, et peut-être demain, si on n'est pas capable de se défendre, si on ne fait pas peur aux Russes, entre guillemets, nous seuls, sans compter sur les Américains, demain, ça sera le tour des États baltes, de la Roumanie, etc. Donc oui, il faut s'armer. Alors le problème, c'est comment financer ça ? Alors, parlons d'abord de l'épargne, puisque c'est le sujet, mais en fait, il y a au moins 4, peut-être même 5 façons de financer ce problème, parce que le problème, c'est le financement.
Oui, oui.
Quand j'entends dire il faut passer des commandes, oui, bah, ok, il faut passer des commandes, mais enfin, si vous êtes autonome, vous, financièrement, quand vous commandez quelque chose, ça veut dire que vous avez l'argent pour le commander. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent. La France est hyper endettée, la France croule sous la charge de sa dette qui, dans notre budget, pèse énormément. Donc, l'idée que la France puisse encore emprunter sur les marchés internationaux est une idée qui paraît peu réaliste, parce qu'on ne trouvera pas de gens pour nous prêter davantage. Donc, il faut effectivement que la France dégage quelque part des ressources pour financer cet effort qui va consister à passer les commandes, effectivement, mais il faut d'abord trouver l'argent avant de passer les commandes à notre industrie de guerre. Bon, c'est-à-dire des chars, des avions, des obus, et puis des hommes. Il faut des hommes. On a une armée qui est extrêmement peu nombreuse aujourd'hui, et donc il va falloir recruter fortement dans l'armée, et ça coûte très cher. Il n'y a pas que l'investissement matériel. Bon. Donc une fois qu'on a dit ça, l'emprunt sur les marchés internationaux, c'est pas possible. Donc évidemment, l'idée, on se dit, il y a beaucoup d'épargne, donc peut-être qu'on pourrait orienter l'épargne vers ça. Mais c'est une idée qu'il faut manier avec précaution. Pourquoi ? Parce que c'est une illusion de croire que cette épargne dort. Aujourd'hui, toute l'épargne des Français, en fait, elle est en permanence investie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait tourner le système. Donc, si on veut prélever sur l'épargne des Français, via la Caisse des dépôts, via la banque d'investissement, la BPI, si on veut prélever, ça veut dire qu'il faudra que cette épargne qui aujourd'hui finance d'autres choses, par exemple finance la construction de lycées, finance des logements sociaux, finance tout un tas de trucs, soit
refléchée
pour ça. Ça veut dire qu'on arrête de faire. Oui. Et là, il y a quand même des choix à faire qui seront compliqués. Donc c'est vrai que c'est, je pense, quelque chose qu'il faut envisager, mais on comprend bien que, vu la complexité de ce problème de réorientation de l'utilisation actuelle de l'épargne vers une autre utilisation qui sera vers le système industriel militaire, cette réorientation va poser des problèmes, et on n'y arrivera pas très vite, et on n'y arrivera pas dans des grandes largeurs. Et alors, il y a évidemment d'autres solutions possibles, sachant que on ne peut pas décréter qu'on va prélever l'épargne. Ça, il faut rassurer les gens. Dire on va prélever sur l'épargne des Français, ça c'est idiot, on n'est pas dans une dictature. Et surtout, on ne peut absolument pas le faire. Pas plus qu'on ne peut prélever sur les riches, d'ailleurs, ce qui serait une dictature idiote. Pourquoi c'est idiot ? Parce que, évidemment, on est dans un système libéral international. Il n'y a pas de frontières pour la finance. Donc, si vous dites qu'en France, tout d'un coup, vous allez taper sur les plus riches, par exemple, la première chose qu'ils feront, c'est qu'ils partiront de France, et vous aurez perdu à la fois des ressources, et vous aurez perdu parce que vous n'aurez pas rien à prélever. Donc ça, c'est une non-solution, c'est une solution naïve. Et puis je tiens à dire une chose, qu'il faut avoir présent à l'esprit quand on connaît un peu l'économie. Ça n'a jamais été, l'histoire l'a démontré, en ruinant les riches qu'on aide les pauvres. Donc croire, parce que si ça avait été ça la solution, depuis que la gauche, depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81, où la gauche n'a su que taper sur les riches en permanence, eh bien aujourd'hui on est le pays le plus endetté de l'OCDE, on est le pays qui croule le plus sous les impôts, et on a des services publics qui ne marchent plus. Donc chercher l'erreur, je veux dire, c'est, on voit bien que c'est pas la solution. Mais on le sait depuis longtemps. Les Américains l'ont compris depuis longtemps. C'est idiot de dire on va taper sur les riches. Ça n'a jamais été une solution. D'ailleurs, ça a été la solution russe. On voit où ça les a menés en moins de 50 ans, alors que c'est un pays qui a énormément de ressources. Bon, donc ça, il faut exclure ça. Il faut inciter les gens à investir. Donc il y a une façon qui avait été fait à un moment donné, qui était sur l'ISF, à l'époque où l'ISF existait. À un moment où on voulait relancer le bâtiment, on avait dit aux gens, vous payez l'ISF et si vous le souhaitez, vous investissez dans de l'immobilier pour construire des logements et ça vaudra cotisation l'ISF. Ça, c'est une façon intelligente d'inciter les gens à placer leur argent sur des filières industrielles plutôt qu'à payer directement l'impôt à l'État. Et pourquoi cette solution est bonne ? Parce que l'État est extrêmement mal géré. Donc il y a une troisième voie possible qui est évidemment d'essayer de rationaliser dans la gestion publique. S'il y a un endroit dans l'économie française où vraiment l'argent est largement gaspillé, mal utilisé, c'est dans les administrations, où jamais on ne s'est posé la question de l'efficacité. Donc moi je pense qu'il y a un plan, mais beaucoup de gens y réfléchissent, où on voudrait rationaliser, mais d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, c'est ce qu'il faut en Argentine, où il faut rationaliser
c'est
l'utilisation
des fonds publics. C'est une catastrophe
ce
qui se passe en Argentine ou aux États-Unis, excusez-moi.
Enfin,
mais
c'est une catastrophe sale, l'histoire le dira. En Argentine, c'est pas une catastrophe du tout.
Ah si, en Argentine, l'économie s'effondre.
Oui, non, ça s'effondre pas du tout, ils ont un taux de croissance. Non, là, méfiez-vous de ce que vous dites, parce que c'est un peu tôt pour juger, et l'histoire le dira. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de nos économies crève comme l'ont crevé les pays de l'Est, d'une administration qui est budgétivore, qui dépense énormément d'argent et qui a une efficacité extrêmement réduite. Donc je pense qu'il faut rationaliser. Enfin, il y a encore une autre piste à explorer qui sera évidemment explorée, c'est l'idée de travailler plus. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises,
par la voix de son président, Amir Reza Tofighi, qui a proposé, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, lui propose d'augmenter le temps de travail hebdomadaire, de le passer de 35 à 36 heures, et l'heure supplémentaire servirait à financer le réarmement de la France et peut-être aussi, en partie, la capitalisation pour les retraites.
Évidemment que c'est une bonne idée. Et évidemment que aussi on pourrait augmenter l'âge de la retraite au lieu de le diminuer, ce qui est une pure folie sur le plan économique. Mais évidemment que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, tous les pays en guerre, et nous-mêmes en 14, en 40, les gens se sont mis à travailler beaucoup plus pour financer la guerre. Enfin, je veux dire, c'est vieux comme le monde. Donc si vraiment on est menacé, mais je pense que la menace aujourd'hui n'est pas suffisamment perçue au quotidien par les uns et les autres pour qu'ils acceptent ce genre de choses. Mais il faut en venir là. Et je pense qu'il y a toute une palette de choses sur lesquelles on peut jouer et sur lesquelles il faut jouer pour développer la défense en France, bien sûr, mais en Europe. C'est-à-dire que les pays européens doivent tous faire pareil, sinon les gens partiront dans les autres pays.
Alors, Lucas Duval, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Bruno Ciron.
Donc, si je résume, en 2027, on élit Marine Le Pen, qui est ultralibérale et qui va du coup régler
les économies. Ah non, elle n'est pas du tout libérale, Marine Le Pen. Non, là, vous avez fait des erreurs d'analyse. Marine Le Pen est très, très sociale. Bon, alors, elle est aussi libérale que...
Donc, on élit Éric Zemmour, qui est ultralibérale et qui du coup va donc régler l'économie. Parce que du coup, vous dites qu'en Argentine et qu'aux États-Unis, ça marche super bien parce que...
Je n'ai pas dit que ça marchait super bien. J'ai dit c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Et que l'histoire jugera.
L'histoire jugera. Il ne faut pas juger trop tôt les choses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, monsieur, ce qui est sûr, c'est que la fonction publique est pléthorique et que les services publics marcheraient mal. Ça, tout le monde peut peut le constater. D'accord, donc tout alors. Ça pèse énormément sur le budget de l'État. Et si on veut réorienter le budget de l'État, il faut peut-être s'interroger sur l'efficacité des services publics.
Est-ce que je
et
peux,
faire des économies
est-ce
là.
Est-ce que je peux argumenter? On vous a laissé
oui,
parler
ne,
pendant
ne
un
me
moment.
Traitez pas d'extrême droite parce
ah non,
que c'est insupportable.
Du tout.
Je
oui,
merci.
Encore,
je crois pas.
Merci. Du tout, j'ai pas dit
voilà,
ça.
Mais vous me dites que je veux faire élire Marine Le Pen.
Non, je parle d'un programme économique.
Donc
je
n'ai pas du tout ce que j'ai dit.
Donc, on passe sur ce sujet.
Mais ne trahissez pas mes propos, sinon je vais m'énerver, effectivement.
Ça marche. Donc, on augmente d'une heure de travail pour tous les gens qui travaillent et qui galèrent déjà bien assez.
En économie de guerre, ça a toujours été
oui,
fait, monsieur.
D'accord,
ça a toujours été fait.
Mais,
allez demander à nos grands-parents
est-ce que,
dans
est-ce
la
qu'on vous a,
de 40.
Est-ce qu'on vous a interrompu, monsieur Cyr? Il me semble que non. Donc,
si vous voulez dire le contraire de ce que je dis, vous faire dire...
J'ai rien dit, monsieur Cyr. Pour l'instant.
Vous êtes radicalement contre ?
Mais alors, c'est pas que je suis contre. Si on dit aux gens qui galèrent déjà aujourd'hui avec le SMIC à 35 heures, qui font des boulots où ils se pètent le dos, ils se pètent le corps comme il faut, personne a envie de se péter le dos, et qu'on leur dit tu vas travailler une heure de plus, et que dans ce même temps, on pourrait, je sais pas moi, taxer d'1% de plus. Les bénéfices nets de certaines grandes entreprises ou les personnes les plus riches, eh bien, je pense qu'on gagnerait beaucoup plus d'argent avec un seul pour cent. Hein.
C'est une illusion.
Mais
l'argent partira.
Mais s'ils partent.
Vous n'avez pas de solution.
Mais qu'ils partent. Et les patriotes, ça ne sera pas eux.
Mais non.
À un moment, il faut leur dire aussi que s'ils sont patriotes.
La finance n'a pas de frontières, monsieur.
Non, mais à un moment, il faut leur dire que si ce sont de vrais patriotes, eh bien, ils devraient être fiers de payer de l'impôt en France. Une personne qui a des milliards et des milliards. Est-ce que 1%
mais quoi,
de sa richesse...
Qui a des milliards, mais les personnes qui ont des milliards, elles sont russes, ils sont...
Mais pas français. On n'a pas des réussites françaises.
Très peu, monsieur.
Moi, pourtant, j'en vois quand même pas mal. Et j'en suis fier de ces réussites françaises.
Ils en font déjà beaucoup, mais les vrais gens riches, ils ne sont pas en Europe. Ils ne sont pas en France.
Écoutez, s'ils ne sont pas en Europe, et si, de toute façon, à chaque argument qu'on dit, vous nous coupez la parole, ça va être compliqué de débattre. Voilà.
Alors... Pierre Fournier, vous, après cette petite passe d'armes.
Ouais, je suis assez éloigné de cette passe d'armes. J'ai un peu écouté les arguments des uns et des autres. Bon, le discours de réduire la dépense publique en réduisant les administrations, en faisant du Trump et du Javier Milei, j'ai déjà entendu. C'est une piste en soi de faire des économies. Mais en fait, on n'en est pas encore là. J'ai envie de le répéter, on a doublé le budget de la défense. Et enfin, il y a un truc dont vous n'avez pas parlé, monsieur, c'est que vous parlez beaucoup de budget mal utilisé, etc. Mais il y a un truc sur lequel vous n'avez pas touché, c'est sur les retraites. Les retraites, aujourd'hui, les retraités sont un des plus gros, on va dire, l'ogre de l'État. Ils bouffent un budget considérable, ils aspirent tout ce que les salariés réussissent à produire.
En richesse,
tout simplement.
Oui, alors il faudra dire aussi quel type de retraité, quel régime de retraite nous coûte beaucoup.
Tous. On a aujourd'hui une pyramide de Ponzi en France qui est la retraite par répartition. Je suis opposé à ce système de retraite. Je suis pour une retraite par capitalisation. Mais aujourd'hui, vous me dites que les jeunes doivent faire des efforts. Les jeunes. Toujours, c'est nous les actifs qui devons faire des efforts.
J'ai pas dit les jeunes.
Mais. Monsieur, excusez-moi, que ce soit Lucas ou vous, monsieur, tout ce que vous voulez, c'est soit baisser les administrations, soit faire payer plus de monde. Et vous, vous avez parlé de...
J'ai dit rendre plus efficaces les
voilà.
administrations
et vous avez parlé
de sortir de l'argent vers le...
Et vous avez parlé de la CPME qui souhaite que les actifs travaillent une heure
un
de plus.
Bah
que,
oui,
voilà.
On est le seul pays qui est aux 35 heures.
Oui,
cherchez
oui,
l'erreur,
voilà,
on est
voilà,
le seul pays
c'est
qui
voilà.
est à 62.
Et on est aussi le seul pays où les retraités sont partis à 60 ou 62 ans et qui gagnent une fortune alors que nous, les actifs, nous sommes plombés
fortune,
par
monsieur,
les impôts.
Et vous oubliez qu'ils ont cotisé
oui,
toute leur vie.
Oui, non, ils n'ont pas cotisé toute leur vie. Ils ont cotisé pour leurs anciens, ils n'ont cotisé rien du tout, et nous on cotise énormément pour les retraités aujourd'hui. Donc non, dites pas qu'ils ont cotisé toute leur vie pour leur retraite, ce n'est pas le cas.
Mais d'autant plus
si.
Qu'ils sont retraités
bien
beaucoup
sûr
plus
que
longtemps
si.
Que les anciens.
Voilà,
enfin,
exactement.
Mais
non, monsieur, vous n'avez pas cotisé pour vos retraites, vous avez cotisé pour les retraites de vos anciens, de vos aïeux.
Non,
la génération silencieuse, selon les appels.
Le système par répartition.
Oui, tout à fait. Et en fait, ce que je veux dire par
et
là,
qui,
c'est que...
Qui l'a voulu la gauche. D'où
non,
sort
c'est pas
M.
la gauche.
Macron de
non,
la gauche
monsieur, c'est
Il
pas...
a été ministre des Finances. etc. Il n'est pas revenu là-dessus.
Monsieur, on est plein à vouloir la fin. Non, mais oui. Mais je veux dire, on est plein à vouloir la fin de la retraite par répartition. Je suis pour. Gabriel a été pour. Dans notre parti, on est majoritairement pour. Le problème, c'est que c'est un énorme. C'est un énorme mammouth à dégraisser. Mais si vous voulez, vous parlez de faire payer les actifs, faire payer les riches, supprimer des postes dans l'administration publique, et vous pensez pas au premier poste de dépense dans les, enfin, le premier poste de dépense, les retraites.
Mais les retraites, monsieur, c'est un système par répartition,
oui,
dans lequel ce que cotisent les uns,
on prend l'argent des actifs pour le donner aux retraités. C'est comme ça que fonctionne.
Il est vrai que le système des retraites coûte très cher, mais ce qui nous coûte très cher, vous savez,
et si vous voulez faire des économies,
c'est la retraite à 60 ans qui a fait toutes ces erreurs. C'est
la retraite des fonctionnaires.
Les 35 heures, la retraite à 60 ans, et ben effectivement, ça coûte très cher. Mais chaque fois qu'on veut revenir dessus, personne n'est d'accord.
Les 35 heures, je suis un peu mitigé là-dessus. On sait que travailler moins permet d'avoir une productivité dans plein de cas.
Ouf.
Moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur les retraites, c'est que si on évitait d'indexer
les retraites...
Donc c'est les
retraités qui doivent payer pour vous.
Mais on arrête d'indexer les retraites chaque année. On arrête d'indexer les retraites sur l'inflation. Et déjà, là, on fait énormément d'économies pour financer l'effort de guerre aussi. Parce que, si tout le monde doit faire des efforts là-dedans...
Il n'y a qu'à généraliser l'euthanasie, comme ça, il n'y a
plus
de
n'importe
vieux,
quoi.
C'est réglé.
C'est un truc de
fou. C'est un autre sujet, ça. Donc, il faudrait qu'on reste sur le sujet, c'est savoir
si
comment on finance...
Attendez,
le sujet, je rappelle, c'est savoir comment on finance le réarmement de la France. Pierre Fournier dit qu'il y a déjà des choses qui ont été lancées.
Oui.
Pour vous, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres fonds.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher d'autres fonds, mais c'est l'épargne des Français. En fait, la question de base, c'était... est-ce qu'on va piocher dans l'épargne des Français?
Non, est-ce qu'on va proposer aux Français d'utiliser leur épargne volontairement?
C'est une voie parmi d'autres.
C'est une voie secondaire, c'est ce que je disais en fait. Ouais. Il y a premièrement le financement commun avec l'Union Européenne. On l'a fait pendant le Covid, ça a très bien marché. On s'est endetté en commun.
Le financement commun, monsieur, on le trouve où? Enfin, il n'y a pas d'argent magique.
Est-ce que
les Allemands vont payer?
On emprunte en commun.
Mais on emprunte à qui?
Mais aux banques.
Mais les banques, c'est la France, c'est les Français.
Monsieur, chaque année, l'État emprunte de l'argent. Enfin, vous connaissez, on a un assez gros déficit pour savoir qu'on emprunte de l'argent tous les jours même. On emprunte tous les jours.
Donc, ça veut dire qu'on emprunte encore plus?
Mais moi, ce que je veux, enfin, ce que je pense concrètement, c'est qu'on doit, travailler sur. Je suis pas économiste, je vous l'avoue, je suis ingénieur. Je pense néanmoins que, comme je vous l'ai dit, pendant la période de Covid, on en a emprunté en commun. Moi, je suis pour une Europe de la défense. C'est comme ça qu'on réussira peut-être à se passer un jour de l'OTAN, parce que l'OTAN, comme l'a dit Emmanuel Macron, mais il y a de ça 7-8 ans, elle est en mort cérébrale. On a pensé que ça passerait maintenant qu'avec Biden, puis Trump est revenu, et je pense sincèrement que Trump ne sera pas le pire président qu'on connaîtra. Je pense qu'il y aura encore pire plus tard. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus compter sur l'OTAN. On doit plutôt travailler en européen sur la défense, donc... Ça irait.
Le général de Gaulle avait dit ça il y a très longtemps.
Exactement. Le général de Gaulle disait que les intérêts de la France allaient au-delà des frontières, ça allait en Allemagne, ça allait plus loin. Voilà. Donc aujourd'hui, soit on emprunte en commun, on peut emprunter en commun, on a un énorme budget déjà. Il y a également en faisant des commandes, en faisant de la commande publique, on trouve les financements bancaires. C'est comme ça qu'on arrivera à financer cet effort de guerre. Et encore une fois, en fait.
Mais les banques, vous croyez qu'elles trouvent l'argent où?
Elles le fabriquent.
Vous croyez qu'elles fabriquent l'argent, les banques, vous?
Oui, non, mais... La planche à billets.
Non, mais c'est comment ça marche, un prêt?
Eh bien, ça marche tout simplement, c'est les dépôts des gens qui permettent de prêter aux uns.
Et c'est pas donc les banques commerciales qui prennent de l'argent, enfin qui empruntent de l'argent à taux zéro à la Banque Centrale Européenne ou à la Banque de France, et qui font un rendement de 2% par an et qui créent littéralement 2% par an d'argent.
Oui, mais
c'est pas sur l'argent des dépôts qu'ils ont chez eux. Ils empruntent à 0% à la Banque Centrale.
Mais non. Bon, je vais pas vous faire un cours d'économie. C'est pas le lieu, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Les banques n'empruntent pas de l'argent. Il faut, si vous voulez emprunter de l'argent, les banques ont le droit de se refinancer. Ce sont les banques centrales qui contrôlent le système avec un taux extrêmement réduit. Et donc, les banques, en fait, sont là pour recycler l'argent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là, elles ne créent pas de l'argent. Elles recyclent de l'argent.
Quand elles payent 0,5 un prêt à la banque centrale, un taux très réduit, et qu'elles se font 2%, si, elles créent crée de l'argent pour
elle. Mais non, elle ne crée pas cet argent. Eh ben non, mais c'est comme si vous me disiez qu'un type qui achète un truc qui vaut 10 et qui le revend 20, il a créé de l'argent. Il n'a pas créé de l'argent, il a fait un profit. Il l'a vendu à quelqu'un d'autre, il a fait un profit. C'est pareil pour les banques. Et elles ont évidemment aussi à faire vivre tous leurs salariés, leurs structures, etc. Donc c'est normal qu'elles fassent une marge pour faire vivre la machine elle-même. Mais ce n'est pas elle qui crée de l'argent, ce sont les banques centrales qui créent de l'argent par le système de refinancement. Et c'est l'État qui crée l'argent, en fait, chaque fois qu'il a un déficit. Mm-hmm. Ça veut dire chaque fois qu'il dépense plus que ceux qu'il a prélevés comme impôts ou par la TVA ou les impôts, ça correspond à une création monétaire.
Ah ben donc, sauf, on crée de l'argent.
Mais c'est l'État qui le crée.
Ah ben, oui, mais vous disiez qu'il n'y a pas d'argent magique. Vous disiez qu'il n'y avait pas d'argent
non,
magique.
Non, parce que l'État a besoin de se refinancer.
Mais donc, il crée
de
l'argent. Voilà, là, on part dans la discussion. On va perdre tout le monde, à part ceux qui s'intéressent vraiment à la question, qui sont banquiers eux-mêmes ou économistes.
Pas toujours est-il.
Moi, ce que je constate, c'est qu'apparemment, parmi vous, personne, pour des raisons qui peuvent être différentes, ne souhaite à ce qu'on ait recours à l'épargne des Français pour financer le réarmement. Alors que Sébastien Lecornu parle de lui d'un placement patriotique, de créer un placement patriotique. Au ministère de l'économie, on parle de l'assurance-vie, avoir recours à l'assurance-vie, l'épargne de retraite pour créer un fonds national de défense. Alain Minc, qui n'est jamais à court d'idées, vous le savez, lorsqu'il s'agit d'argent, lui propose carrément un emprunt forcé auprès des Français qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Donc on imposerait les contribuables concernés, il y aura un prêt de l'État équivalent à la moitié de leur impôt sur le revenu de l'année précédente. Ça ne concernerait pas les plus modestes qui ne payent pas d'impôts déjà, donc qui seraient protégés. Et l'État rembourserait cette créance avec un taux d'intérêt.
Non, mais ça, voilà. On peut en rire parce qu'évidemment, ça ne se fera pas.
Non, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des idées partout.
Mais c'est une idée qui tient la route parce que justement, ce n'est pas une idée qui consiste à reflécher de l'argent. Si vous dites,
c'est ce qu'il dit d'ailleurs.
Et oui, parce que tout le reste, prélevé sur l'assurance vie, etc., en fait, c'est de l'argent qui est dans le système, qui sert à financer tout un tas de choses. Donc, si vous dites que demain, une partie de l'assurance vie, on la met dans l'industrie de l'armement, de défense, ou pour recruter des soldats, eh bien, évidemment, ça ne servira pas à ce à quoi ça servait jusqu'à
maintenant. Ça sera refléché d'argent.
Et donc, on va avoir tout un tas d'endroits où on ne pourra plus financer l'économie. Et c'est ça la difficulté, c'est où est-ce qu'on tape en réalité. L'assurance vie ne serait qu'un moyen, ou l'épargne ou les retraites ne seraient qu'un moyen pour prélever quelque part où on finance. Donc c'est sur quoi?
Oui.
C'est ça la difficulté. C'est pour ça que je pense qu'une des solutions, c'est effectivement, puisqu'il s'agit à travers l'armée de créer des emplois de fonctionnaires finalement, les militaires sont des fonctionnaires, ça serait de réorienter une partie de la fonction publique en faisant des gains de productivité. Et croyez-moi, moi j'ai géré un service public où il y avait 1200 salariés, et je sais ce que c'est. Aujourd'hui je gère une ONG qui a 500 salariés, je sais ce que c'est, je peux vous dire qu'on gaspille très très vite de l'argent.
Oui.
Et que si on fait des efforts et qu'on rationalise la gestion, on se rend compte qu'il y a des marges de manœuvre considérables et qu'on peut réorienter des emplois pour être plus efficace. Donc moi, c'est ce que je dis, mais je suis sûr qu'on va y arriver inévitablement. C'est parce que c'est une évidence de bon sens.
Non, mais ce qui est amusant, c'est que tous nos politiques, ils vont de leur idée pour mobiliser l'épargne des Français, et je vois autour de la table que personne ne pense que c'est une bonne idée.
J'ai pas dit que c'est une mauvaise idée, j'ai dit que c'était secondaire, moi.
Bah oui,
je pense que c'est pas le...
Ça sera fait en partie.
Vu comment on en parle, ça n'a pas l'air secondaire, en tout cas. Bon, on verra bien ce qui va ressortir de tout ça.
Par des incitations.
De tout ça, on verra si, effectivement... on propose aux Français d'utiliser leur épargne, je ne sais pas encore de quelle manière, pour financer le réarmement de la France, la défense nationale. Affaire à suivre. Nous allons faire la traditionnelle petite pause dans cette émission avant de débattre d'un autre sujet dans une vingtaine de secondes, comme d'habitude. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Retour au direct en compagnie de mes trois invités, Lucas Duval, Pierre Fournier et Bruno Cyr. Mardi, alors qu'avait lieu le lancement du futur siège de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSE, à Saint-Ouen, Emmanuel Macron a prononcé un discours lors duquel il a déclaré que la France devait lutter en même temps contre les menaces géopolitiques et contre les menaces sur son sol projetées par les terroristes. Il a fustigé au passage certains de ses opposants, qu'il accuse d'exagérer la menace russe et de vouloir faire peur aux Français. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que le président de la République cherche en effet à effrayer l'opinion publique en surestimant la menace que pourrait représenter la Russie pour notre pays, alors que d'autre part, il ne ferait pas assez pour protéger ses compatriotes du danger terroriste islamiste et qu'il serait faible avec le pouvoir algérien dans la résolution du problème des OQTF ou pour faire libérer l'écrivain Boualem Sansal? Je pose d'abord la question à Pierre Fournier. La parole est à la Défense, sans doute.
Alors, la Défense, ça reste tous les Français. Sur la sécurité intérieure, je vous parle de l'Algérie en premier.
Vous parlez de ce que vous voulez. La question est assez claire. La première question, c'est est-ce qu'il cherche à faire peur aux Français, effectivement, notre président?
Non. Il ne cherche pas à faire peur aux Français.
Il tient un discours lucide qui est en lien avec ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qui nous menace.
Oui, et sur la menace du terrorisme islamiste, c'est très compliqué à dire. Marine Le Pen et d'autres personnalités politiques de droite et d'extrême droite ont accusé le président d'essayer de faire peur pour éloigner le danger
Donc on parle moins du danger terroriste, voilà. Islamiste.
Bon. Il a fait, il y a quelques jours, je crois, il y a deux jours, l'inauguration de du nouveau siège de... Enfin, bah pas l'inauguration, ça, l'inauguration de la construction,
du bâtiment, enfin.
De la DGSI, la Direction Générale des Services Intérieurs. De la sécurité intérieure, pas des services, sécurité intérieure.
Oui, c'est
déjà. Il a rappelé une chose fondamentale, c'est que depuis les attentats que nous avons eus en 2015 et puis même ceux de 2012, on a énormément augmenté nos effectifs de police, que ce soit, et également de forces d'élite.
Et de renseignement.
De renseignement. Et aujourd'hui, on a réussi à déjouer des dizaines et des dizaines de projets d'attentats. On n'en parle pas suffisamment, mais aujourd'hui, le dernier gros attentat qu'il y a eu en France, qu'on peut considérer comme très gros, ça avait été Strasbourg, il y a maintenant presque 5 ans. Depuis, on a eu des attaques. Il y a eu Samuel Paty, c'était un drame, et il y a eu d'autres.
Louis Bernard.
Exactement.
Et puis les gens agressés au couteau.
Exactement. Bon. Marine Le Pen avait essayé de faire croire que la menace était du terrorisme islamiste, mais pas de l'armée. De la Russie. J'ai entendu Zermanin ironiquement dire que la personne qui avait tué Samuel
Paty,
voilà, c'était un Tchétchène russe. Ça m'a fait.
Moi, je sais pas s'il était ironique. Hein. Je sais pas,
malheureusement, ça m'a fait sourire, mais c'est assez malheureux cette histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que non, on n'est pas à vouloir faire peur et essayer de cacher les problèmes qu'on a à l'intérieur du pays. On en a, il y a toujours un problème avec l'islamisme radical, et on le dit tous les jours, Gabriel Attal l'a dit également, il a été un des premiers, alors on va peut-être un peu loin là dans le sujet, mais il a fondamentalement combattu l'islamisme radical, il a défendu la laïcité quand il était ministre de l'Éducation nationale, quand il était Premier ministre, ça a été un des ministres qui a été le plus attaqué parce qu'il a voulu mettre fin à la baïa à l'école et être beaucoup plus strict sur ce genre de choses. Et enfin, au niveau de la sécurité, notamment de l'Algérie. On a beaucoup parlé de l'Algérie récemment sur les OQTF. Bon, les OQTF, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il faut savoir qu'en fait, c'est pas... vous pouvez mettre le ministre de l'Intérieur le plus dur que vous voulez. M. Retailleau, il est très dur, il parle beaucoup. Si le pays d'en face ne veut pas récupérer... son ressortissant, mais en fait, il reste sur le territoire national. Alors, à moins que vous décidiez de réouvrir des bagnes à Cayenne...
La question, c'est comment on arrive, entre guillemets, à obliger les pays qui ont des ressortissants chez nous sous OQTF à les récupérer.
Voilà. Bon, il est surtout question de l'Algérie, récemment. Parce que
l'Algérie...
Voilà. Non, mais c'est surtout l'Algérie. En soi, avec le Maroc, on n'entend pas parler, parce que les relations avec le Maroc sont bonnes. Le problème, c'est que les relations actuelles avec l'Algérie sont mauvaises, pour des raisons historiques, pour des raisons politiques intérieures algériennes. L'Algérie vit sous la nostalgie de de l'ancienne colonisation française et de ce fait, en fait, continuent à dire que les Français sont les grands méchants et du coup, les relations diplomatiques sont plus mauvaises. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que nous avons décidé de nous rapprocher du Maroc en reconnaissant le Sahara occidental. Et depuis, les relations sont au plus froid.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus une question de diplomatie qu'une question de sécurité intérieure. Monsieur Retailleau, il parle beaucoup des OQTF, de dire que c'est scandaleux avec l'Algérie, etc. Il va faire comme, il voulait faire comme Trump. Non, ce n'est pas à lui de s'en occuper. Lui est ministre de l'Intérieur et lui, son rôle, c'est la police. C'est pas la diplomatie, c'est pas le Quai d'Orsay. Voilà. Pour finir sur les OQTF, ce qui compte, ça va être de faire de la diplomatie. Donc, Emmanuel Macron et Monsieur Retailleau se sont déjà vus il y a pas longtemps. Ils sont vus il y a deux jours, je crois, pour parler de ce sujet. Il y a un dialogue qui va essayer de s'opérer avec l'Algérie, mais en fait, à partir du moment où un pays ne veut pas récupérer son ressortissant, soit vous ouvrez le débat pour réouvrir des bagnes ou faire de la prison administrative pour des gens qui ne sont pas condamnés. Hein. Au QTF, ça ne veut pas dire qu'ils sont condamnés, ils sont juste dit, on leur dit juste, vous devez quitter le territoire. Voilà, tout simplement.
Donc, quand Emmanuel Macron dit qu'il faut lutter en même temps contre la menace russe, il parle de menace géopolitique, on a compris de laquelle il parlait, et contre la menace terroriste sur notre sol, vous êtes complètement d'accord avec lui, il faut lutter au même niveau, c'est le même ordre de priorité pour vous.
C'est le même ordre, en fait, c'est le même ordre. Je n'aime pas ce narratif de l'extrême droite qui dit qu'on essaye de cacher la menace islamiste sur notre sol, ou la menace intérieure sur notre sol.
Oui, oui.
Ça, c'est le discours, en fait, si vous voulez, de
Marine
Le Pen.
Là, c'est une question de priorité. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Oui,
cette
ces deux menaces sont égales, et donc il faut lutter
cette menace
de même façon.
Cette question de priorité, elle est amenée notamment par la droite et l'extrême droite à cause de la Russie, parce que l'extrême droite a des liens avec la Russie qui sont avérés. Marine Le Pen est venue étaler au Kremlin.
Moi, je parle de ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Je sais. Non, mais
Il en même temps, lui.
Je pense que c'est nécessaire, en fait, de le préciser. Parce que c'est justement, en fait, c'est dans le débat aujourd'hui, parce que Marine Le Pen et parce que l'extrême droite a voulu le mettre dans le débat. Mais le fait est qu'on lutte contre le terrorisme islamiste, on lutte contre l'intégrisme, et ça depuis des années. Vous avez à côté de moi Lucas qui a la LICRA, il pourra vous dire.
Il pourra avoir la parole tout à l'heure, qui pourra effectivement donner son avis. Maintenant, je vais passer la parole à Bruno Cyr. Alors, vous, est-ce que vous reconnaissez dans ce qu'a dit Emmanuel Macron? Et alors, vous mettez au même niveau les deux menaces.
Non, mais au même niveau, je pense que même Emmanuel Macron n'a pas la bêtise de mettre les choses au même niveau. Elles ne sont pas du tout au même niveau. Il y a une menace à court terme, qui est la menace islamiste. Il y a des attentats tous les jours, beaucoup qui sont déjoués. Si on reprend les 10 dernières années, les morts sur le territoire national, ce sont les islamistes. Hein. Le Bataclan, le Nice, etc., etc., Samuel Paty et compagnie. Donc tout ça, c'est un intégrisme religieux, hein, je ne dis pas que c'est les musulmans, je dis ce sont les islamistes. Et derrière eux, il y a les frères musulmans, il y a tout un tas d'organisations, donc c'est une organisation internationale. Il faut lutter contre ça, évidemment, c'est un péril à court terme. Il y a une inquiétude de la part des Français légitime, parce qu'ils voient tous les jours des problèmes liés à cet intégrisme religieux. Évidemment qu'il faut lutter contre, ça c'est un problème de court terme. Après, il y a un autre problème qui est celui de la place de l'Europe. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. On voit bien que sur le plan géopolitique, le monde est en train d'évoluer. Il continuera à évoluer. Mais là, dans l'état actuel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a la Chine, il y a deux pôles qui sont en train de se créer. Et l'Europe a une place qui, pour l'instant, est mal définie. Ces deux pôles, c'est l'Amérique qui se plie sur elle, et on voit bien que l'OTAN, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait dit il y a quelques années, l'OTAN a un encéphalogramme plat, ça veut dire que l'OTAN, il ne se passe plus rien, et on voit bien qu'au moment où on a besoin de l'OTAN pour défendre l'Europe, les Américains nous disent, alors c'est Trump, mais ce ne serait pas Trump, je pense que ce sera à peu près pareil, avec son prédécesseur, c'était déjà à peu près comme ça. Les Américains nous disent, écoutez, débrouillez-vous sans nous, maintenant il va falloir que vous appreniez à vous débrouiller. Donc
et
l'OTAN n'existe plus et l'Europe n'a pas les moyens aujourd'hui de suppléer, de pallier le déficit américain d'engagement de l'OTAN. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'effectivement, on aura une bipolarité. Hein. Il y avait une bipolarité au moment de la guerre froide entre les Russes d'un côté, mais les Russes qui détenaient la moitié de l'Europe. et les Américains qui avaient la mainmise sur l'autre moitié de l'Europe.
De l'Ouest.
À la fin du XXe siècle, ça a explosé. Hein,
L'effondrement de l'URSS, la chute du mur.
Voilà, et l'URSS a disparu, mais Poutine est un nostalgique de l'URSS. Donc Poutine, il veut remettre la main, son plan est clair, il ne veut pas envahir la France. Ça, je crois qu'on est à l'abri de ça. Il ne faut pas paniquer. Les chars ne vont pas arriver dans Paris. Ils n'ont pas les moyens. Les Russes, c'est 140 millions d'habitants. Et ils ont une démographie qui est en chute libre.
Oui, c'est un
donc,
de problème,
140 millions d'habitants. L'Europe, c'est 350 millions. Vous croyez qu'il y a 140 millions de Russes qui peuvent envahir 350 millions ? Donc il faut raison garder.
Il y a une question d'armement. C'est là que la question se pose.
Oui, mais il faut raison garder. Mais il faut quand même des hommes pour envahir des
bien
pays.
Sûr.
Donc on le voit bien avec l'Ukraine. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi à envahir l'Ukraine.
Non.
Donc la démonstration est faite. Mais ce qu'il veut faire, c'est mettre la main sur la moitié de l'Europe qui était dans leur giron autrefois, pour recréer une puissance. Je crois qu'ils n'y arriveront pas, parce que l'Europe se défendra, mais encore faut-il qu'elle ait les moyens de se défendre. Et donc, la bipolarité qui est en train de se créer, c'est la Chine, qui a son bassin d'influence, et qui est en train de capter les Russes. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie et la Chine, il y a 1000 kilomètres de frontière. Et il y a tous les jours des Chinois, tout un tas de Chinois, dans le côté est de la Russie, qui travaillent. Il y a des villes où on ne parle russe, où on ne parle que chinois aujourd'hui, à Vladivostok, etc. Donc la Chine est en train de vassaliser plus ou moins la Russie avec le sentiment de Poutine. Donc on va avoir là une méga-puissance. Et en face, les Américains. Deux crocodiles dans le même marigot, ça finit toujours par se battre. Donc il faut absolument qu'il y ait une troisième force pour créer un équilibre international à peu près stable. Et cette troisième force, ça doit être l'Europe. Et évidemment qu'il faut que l'Europe réinvestisse son armée pour créer une force crédible. On a 350 millions d'habitants, on est plus peuplé que les États-Unis. On a la technologie, on a l'intelligence, on a la recherche qui doit nous permettre d'être cette troisième force. Donc ça, c'est un combat de long terme. On ne peut pas mettre ce sujet. Évidemment qu'il faut mener les deux de front. Mais il y en a un qui est de très court terme. C'est la lutte contre l'islamisme au quotidien, à travers les réseaux de renseignement, à travers la modification des lois, parce que c'est vrai qu'on a un problème avec l'Algérie. Il faut absolument régler ce problème pour remettre de l'ordre dans les lois qu'on a laissées filer un peu n'importe comment. Et parallèlement à ça, il faut que l'Europe s'arme, mais qu'elle s'arme autour de la France et de l'Angleterre. C'est ça la difficulté. Hein. C'est que ce n'est pas la communauté européenne, c'est l'Europe en tant que lieu géographique.
Lucas Duval, donc, sur la question que j'ai posée au départ, le discours d'Emmanuel Macron qui met au même niveau et qui dit qu'il faut lutter en même temps contre les menaces géopolitiques, donc la menace russe, et les menaces sur le sol projetées par les terroristes, sous-entendu islamistes.
Ah oui, effectivement, il faut lutter en même temps. Peut-être juste pas avec la même vigueur, quoi. Je pense pas qu'on mette le même nombre d'agents qui travaillent au quotidien sur la lutte contre le terrorisme islamiste et contre tous les terroristes, en réalité, parce qu'il n'y a pas que du terrorisme islamiste.
Surtout le terrorisme islamiste, vous en connaissez
surtout
d'autres ? Vous avez d'autres exemples de terrorisme ?
Il me semble qu'en Corse, il y a eu des petits soucis avec des préfets... avec un préfet ça s'appelle du terrorisme.
Il y a eu les Basques aussi.
Un préfet mort, vous voulez qu'on mette les nombres de morts en face des islamistes ? Il faut appeler un chat un chat. Le terrorisme aujourd'hui, c'est l'islamisme, c'est pas les Corses, ils font peur à personne, ni les Basques.
Bien sûr. Allez-y, Lucas Duval.
Si vous me permettez, je vais quand même essayer d'avoir un propos sans être constamment coupé. Donc je disais que évidemment il faut qu'on lutte contre les menaces extérieures, mais pas du tout avec le même nombre d'hommes d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui au quotidien sur la lutte contre le terrorisme. Après, oui, effectivement, Le Pen et toute la droite de la droite, oui, bien sûr, qui disent oui, mais il faut lutter contre l'islamisme. Ben, après, on sait très bien ce qu'ils entendent derrière par lutter contre l'islamisme. Dans la tête de l'extrême droite, lutter contre l'islamisme, c'est aussi lutter contre nos concitoyens qui sont musulmans et contre des personnes qui voudraient venir en Europe et qui sont musulmans. Et on entend la théorie du grand remplacement derrière. Voilà, c'est toujours, toujours la même musique, parce qu'ils sont différents, entre guillemets, ils ne sont pas dans la culture européenne, française, blablabla, bref. On sait très bien la petite musique nauséabonde qui y a derrière. Sur la question de l'Algérie, c'est juste une question, pour le coup, de ressentiment qu'a l'Algérie vis-à-vis de ce qu'a pu faire la France pendant la colonisation. On n'a clairement pas été tout blanc, c'est peu de le dire. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a encore ce ressentiment-là.
60 ans après, plus de 60 ans.
Bien sûr,
après.
Mais.
Non,
là,
pas 60 ans, 1830, oui. Hein, la colonisation.
Non, je parle de la fin de la colonisation. Je parle de la fin de la colonisation.
Donc,
l'indépendance de l'Algérie, je veux dire. Évidemment, ils ont une plaie. Enfin, tant qu'il restera des Algériens qui ont vécu, on va dire, sous l'Algérie française, évidemment, il y aura toujours cette plaie, ce sentiment.
Il va y en avoir de moins en moins.
Si je peux permettre, il y en a plus beaucoup. En fait, c'est un ressentiment qui est poussé par le gouvernement algérien.
J'allais y venir, parce qu'après, il y a aussi un nationalisme exacerbé algérien qui du coup, cherche à monter en épingle le conflit entre la France et l'Algérie, entre guillemets, pour régler les comptes. Et l'arrestation de Wahem Sansal, c'est un des symptômes. C'est-à-dire,
qui est survenu tout de même après la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, où il a reconnu.
Bien sûr, mais c'est un des symptômes. C'est juste dire, vous l'avez reconnu citoyen français, on va trouver une raison pour l'arrêter. Voilà, c'est tout.
Donc il y a un peu de manipulation.
Et après, sur les OQTF, je suis d'accord avec Pierre Fournier. C'est pas parce que nous on joue les gros bras et qu'on a Bruno Retailleau qui fait le chef et le fier qu'on réglera les soucis des OQTF.
En tout cas, sur la question Emmanuel Macron veut-il faire peur aux Français, vous pensez pas qu'il joue avec ça?
On parle beaucoup de la menace russe. Peut-être pas faire peur, mais en tout cas essayer d'accréditer l'allocution qu'il a faite la semaine dernière, c'est-à-dire je vous ai dit ça, mais je vous assure que j'ai raison, hein. En mode pour essayer de convaincre les Français.
Oui,
faire peur, je ne sais pas,
comme ça,
mais convaincre.
Qu'il a présenté les choses. Donc c'est pas quelque chose qu'il dit à la légère. Bon, on va clore ce sujet qui reviendra peut-être sur le tapis dans les semaines qui viennent, c'est fort possible. Il nous reste pour une fois quelques minutes pour vos coups de gueule ou coups de cœur du jour. Eh bien, c'est Bruno Cyr qui va commencer et je suis persuadé qu'il a plein de choses à nous dire.
Oui, il y aurait beaucoup de choses, mais il y en a une qui est particulièrement choquante, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est tellement triste. C'est cette histoire de LFI, encore une fois, qui, pour faire parler d'eux et pour faire du clientélisme auprès d'un certain nombre de groupes, de communautés qui veulent flatter, a été publié une affiche qui présente
Cyril
Hanouna, qui est juif, comme une des pires caricatures qu'on a vues dans les années 30 au moment de l'hitlérisme en Allemagne. C'est-à-dire une caricature d'Hanouna en disant il faut lutter contre
l'extrême droite.
Ou contre l'islamophobie.
Ses idées et ses relais.
Voilà. Et donc c'est ignoble de faire ça. C'est ignoble et c'est encore une fois, ça montre trois choses, au fond, qui sont liées. Un, ce parti est antisémite, clairement. Là, ils en viennent d'en faire la preuve. Tout autant qu'ils sont
islamistes, vous voulez dire ?
Islamistes, oui. En dénonçant l'islamophobie, en réalité, eux, ils se sont...
Des islamo-gauchistes,
voilà, ils ont contesté le terme, mais en fait, ils y sont en plein. Et puis, le député, le candidat à la mairie de Paris déclaré de LFI, qui a dit que Paris était une ville woke la semaine dernière. Donc,
LFI, c'est les écolos qui disent ça.
Oui. C'est les écolos,
oui,
c'est
David
pas LFI.
Béliard.
Ah, voilà. Donc ces gens-là, moi je les mets dans le même panier parce que je trouve qu'ils ont à peu près les mêmes théories sur tout et ils votent toujours pareil à l'Assemblée nationale. Donc ces gens-là sont islamo-gauchistes, woke et antisémites. Et moi je suis triste de voir ça.
Lucas Duval,
Bon, je vais aller très vite, évidemment, dire que sur le constat, je pense qu'on va tous le partager ici sur l'affiche clairement antisémite qui reprend.
Qui a été retirée. Hein,
qui a été retirée,
après
oui.
Après coup. Bon.
Ouais, quelques heures après.
Comme s'ils n'avaient pas vu avant. Bon, okay.
Voilà. Moi, je voudrais juste parler, parce qu'effectivement, on parlait de l'Algérie, dire que voilà, il y a quand même des mobilisations pour Bohème Sans Salle. Et demain, moi, j'en serai à une. Bon, c'est pas à tous, c'est à Strasbourg. Mais que voilà, bon, à l'heure actuelle, il y a.
C'est organisé par la LICRA ?
Par la LICRA et par le journal Marianne. Et qui, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, rassemblerait 120, 130, 140 personnes à Strasbourg. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est, on va dire, une petite lueur d'espoir. Alors que Bohème Sans Salle, on le sait.
On espère tous qu'il va bientôt sortir et revenir en France, et notamment pour se faire soigner, parce qu'il en a certainement besoin.
Absolument.
Pierre Fournier, à vous le mot de la fin.
Ben, moi, j'ai plutôt un point positif pour une fois.
Bravo.
Il y a deux ou trois jours, a décollé la fusée Ariane 6. Premier vol commercial de la fusée Ariane 6, c'était une réussite. C'est une réussite. C'est une fierté française, une fierté européenne, et on peut en être fier. On a un des plus belles fusées au monde aujourd'hui, l'Ariane 6. Elle est capable de transporter des charges très lourdes en orbite basse, en orbite géostationnaire, et on peut en être fier. Elle a lancé son premier vol commercial avec le satellite GO3 ou SO3, je ne sais plus. CO3.
C'est vous l'ingénieur.
CO3, oui. Satellite militaire pour l'armée française. Et voilà. C'est une réussite. Ça a été lancé. Et on n'a qu'à dire. On espère le meilleur pour Ariane 6 et qu'elle reste des années et des années.
Oui, mais il faut saluer la réussite du spatial européen qui, d'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises, de start-up à Toulouse.
Bien sûr.
Dans le domaine du spatial, on parle souvent de l'aéronautique.
Je travaille au CNES.
Espérons que ces satellites pourront donner les renseignements que les Américains ne veulent plus donner aux Ukrainiens, parce qu'on en a bien besoin.
À voir, une fois qu'il y aura eu, espérons-le, un cessez-le-feu. Sur le front ukrainien, c'est la fin de cette 186e mêlée de l'info. Merci beaucoup à vous trois d'avoir débattu, bon, parfois avec énergie, mais ça fait partie du jeu. Tous mes remerciements également à Coraline Camebrac qui a assuré la régie technique de cette émission. Merci beaucoup Coraline. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès maintenant sur le site de Radio Présence. Et merci à tous ceux qui nous ont encore écoutés aujourd'hui. À la semaine prochaine.